Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des Nouveaux Travailleurs. On est toujours sur la série « Tout ce qui est moi » dans laquelle je fais le point sur un peu plusieurs aspects de mon activité que je considère me correspondre, être vraiment moi, que j'ai pu mettre en place dès le début ou faire évoluer au cours de mes 3 ans et quelques d'activité. Et ça vient en opposition à la série d'avant, La Grande Remise en Question, dans laquelle, à l'inverse, je parlais des points qui me paraissent ne pas me correspondre et que j'aimerais faire évoluer sans forcément avoir encore trouvé des solutions, mais j'ai posé la réflexion comme ça. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'enthousiasme pour des sujets que j'ai pu ressentir et qui m'ont donné envie de creuser spontanément, de vraiment consacrer, dédier du temps à ça et d'avoir vraiment cet enthousiasme spontané quand tu t'intéresses à un truc et que tu as envie d'en apprendre plus. Et donc déjà, les nouveaux travailleurs, le blog, il est issu de ce type d'enthousiasme puisque j'avais suivi une formation en blogging et j'ai passé 5 mois à attendre de trouver le sujet sur lequel je voulais créer le blog parce que on m'avait fait faire ma liste de passions, de sujets qui m'intéressent, fait faire une petite étude de marché pour voir s'il y avait déjà des blogs sur ces sujets-là et tout, mais il n'y avait rien dans ma liste de ce que j'avais écrit qui se démarquait et qui me donnait suffisamment cette énergie de créer toute une activité autour de ces sujets-là. Et le sujet, il a fini par arriver un jour quand il s'est passé un événement dans ma vie professionnelle qui était que... alors déjà, j'avais failli quitter l'entreprise parce que j'en avais marre de l'ambiance et de ce qui se passait avec mon manager notamment... avec l'équipe, mais aussi d'un point de vue de un peu l'état d'esprit présentéisme et tout. C'était juste une personne qui était comme ça, mais donc ça me saoulait un peu. Et je m'étais dit que j'allais partir. Et finalement, j'ai su que ce manager allait sûrement partir, lui. Et je me suis dit que les choses allaient peut-être changer. Et juste derrière, l'autre cofondateur a décidé de nous autoriser à travailler en remote et en fait de carrément ne plus avoir de bureau. Et donc, j'ai vécu l'expérience du remote en tant que salarié, c'est-à-dire le télétravail à 100%. Donc, je travaillais de chez moi. Et là, en fait, j'ai vraiment apprécié cette expérience, comme tu as pu l'écouter dans l'épisode précédent où j'en parle un peu plus. Et je me suis dit, mais c'est fou que je ne savais pas en fait que c'était possible. Déjà, j'étais super contente d'avoir eu la chance de rejoindre une entreprise qui avait cet état d'esprit sans même vraiment le savoir. Je sais que quand j'ai passé les entretiens, ils m'avaient dit qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient ailleurs. Et moi, ça ne m'avait pas dérangé. Mais de là, entre eux et moi, je ne savais pas que... au début, je ne me suis pas dit, ouais, j'espère que moi aussi, je vais pouvoir le faire un jour. En fait, moi, j'arrivais comme salariée, j'allais bosser dans les bureaux et c'était comme ça. Et les autres, c'était les autres. Mais au fil du temps, j'ai développé l'envie de faire comme eux, d'avoir le droit d'être ailleurs. Bon, eux, c'était carrément à l'étranger hein, qu'ils étaient. Ils voyageaient et tout. Ils ont même changé d'endroit au cours de l'année où moi, j'étais là. Et comme j'ai kiffé ça, je me suis dit, mais c'est fou que j'en ai jamais entendu parler de ce concept de remote, de télétravail à 100%. J'ai fait une école de commerce qui me forme à travailler dans des entreprises, mais en fait, on parle surtout des grandes entreprises et on ne parle pas d'autres modes d'organisation comme des petites entreprises comme celle dans laquelle j'étais, on était 10. Et je me suis dit, je pense que parmi les gens qui ont fait les mêmes études que moi, à mon avis, il y a bien 20% qui seraient intéressés par ce format de travail. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça mon sujet. Moi, j'ai vécu l'expérience, mais j'ai envie de savoir s'il y a d'autres personnes qui le vivent et comment ils le vivent eux, parce que moi, ça pouvait m'aider à aussi mieux vivre mon remote à moi. Et je voulais un peu démocratiser ce sujet pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent avoir l'opportunité d'en profiter en cherchant des entreprises qui offraient ça ou peut-être en éveillant un peu les consciences et de certains managers ou créateurs d'entreprises qui pourraient peut-être le mettre en place dans leur entreprise. Et à ça, c'est ajouté la notion de nomadisme digital que j'avais découverte justement en découvrant qu'on pouvait vivre du blogging puisque la personne qui m'a parlé de ça... c'était un digital nomade et il disait que c'était un des avantages du blogging, c'est qu'on pouvait avoir cette liberté géographique dont je t'ai parlé aussi dans l'épisode précédent. Et enfin, j'avais découvert le sujet des slashers qui m'avait passionné. Donc les slashers, ce sont ces personnes qui mènent plusieurs activités de front et ça m'avait passionné parce qu'en fait, c'est ce que j'avais fait au cours de l'année puisque je suis entrée dans mon CDI en mars 2016. En août 2016... En mars 2016, je suis rentrée dans le CDI. En mai 2016, j'ai commencé la formation de blogging dans l'intention de devenir blogueuse professionnelle et je m'étais donné 3 ans à l'époque. Je pensais que j'allais passer 3 ans en salariat et que j'allais quitter le salariat au bout de 3 ans pour créer cette activité. Finalement, je l'ai créé 9 mois plus tard et j'y suis passée à 100% un an et demi plus tard, à peu près, ou 2 ans plus tard plutôt. Donc j'ai fait le CDI, ensuite j'ai rajouté la brique du blogging, parce que du coup j'ai commencé à me former, j'ai commencé à réfléchir au sujet, j'ai commencé à faire plein de choses liées à ça. Et en août 2016, j'ai rajouté un autre projet où on était deux. Donc j'avais participé à un startup weekend en juin 2016 et j'avais trop kiffé le projet de la personne. J'avais rejoint l'équipe d'une personne qui avait pitché un projet. J'avais vraiment apprécié le projet, mais aussi la personne qui menait ce projet. Et je trouvais qu'on était un peu sur la même longueur d'onde, qu'on s'entendrait bien pour avancer ensemble sur le projet. Donc, je lui ai proposé de l'aider, quoi, de contribuer. Et finalement, ça lui allait bien d'avoir une cofondatrice avec lui. Et donc, je suis devenue cofondatrice du projet. Donc, pendant un an, j'ai mené ces 3 projets de front, mon CDI, les nouveaux travailleurs, ou en tout cas, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais l'histoire du blog, et Pack Your Skills, qui était l'autre projet à deux. Donc, je me sentais concernée par la question des slashers et c'est pour ça que ça m'a aussi passionnée au même titre que les deux autres. À l'époque, il y avait aussi l'entreprise libérée dont j'avais entendu parler. J'ai un peu délaissé ce sujet parce que j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de leviers d'action pour aider les personnes à accéder à ça. Mais au début, c'était aussi un sujet. Donc, j'avais 4 sujets sur lesquels j'ai lancé le blog et qui m'intéressaient au point de lancer un blog dessus et de me dire que mon activité, elle allait reposer là-dessus. Ça, c'était le premier projet, le premier sujet, enfin les 4 premiers sujets. Et après, je considère que ça m'est arrivé 2 fois d'avoir ce type d'enthousiasme. Ça m'est arrivé en mars 2018, donc 2 ans après, mais c'est l'année où j'ai officiellement commencé les nouveaux travailleurs. Et j'ai découvert l'Ikigai. Et donc, je me suis prise de passion pour cet outil. Je trouvais ça génial. J'ai acheté 3 livres pour essayer de faire le tour un peu du sujet et je voulais comprendre la méthode. Finalement, il n'y avait pas une seule méthode, donc j'ai inventé la mienne et c'est la méthode Ikigai qui est disponible dans les articles sur le site, sur lesnouveautravailleurs.fr. Et donc là, je me rappelle, j'ai vraiment un bon souvenir de ce moment parce que j'adore en fait ce côté où d'un coup, tu te prends de passion pour un sujet et tu décides de te renseigner, de limite tout lire dessus. Bon, je ne voulais pas lire tous les livres parce que je me suis dit qu'après, ils allaient se ressembler. Ça allait être un peu toujours la même chose. Puis, je n'avais pas forcément envie de mettre le budget de 12 livres dans cette recherche qui allait donner lieu uniquement à des articles gratuits. Mais 3, ça m'a suffi, ça m'a donné un bon aperçu. Et derrière, tu vois, j'ai écrit un article qui sortait de cette passion-là et qui est l'article qui est le plus lu aujourd'hui et qui me rapporte 30% de mon trafic. Bon, c'est aussi parce que l'Ikigai, c'est devenu quelque chose de tendance. Mais en tout cas, pour moi, ça a eu un effet bénéfique à la fois pour moi sur le coup, parce que j'ai pris du plaisir. Et derrière, ça a eu des conséquences moyen terme évidentes, parce que j'ai énormément de personnes qui découvrent le blog de cette façon. Donc, ça m'a permis d'être référencée sur Google, alors que ce n'était pas du tout l'intention. Mais c'est ça qui s'est passé, donc tant mieux. Et le 3e sujet pour moi qui est comme ça, qui était empreint d'enthousiasme, c'est le design humain que j'ai découvert début 2020. On m'en a parlé, j'ai commencé d'abord à regarder un peu dans les grandes lignes les types, donc j'ai découvert que j'étais manifesteur générateur et j'ai lu un peu ce que ça veut dire et tout. Puis après, je recevais les mails de la personne qui avait créé le petit guide d'intro à ça. Et en fait, plus j'avançais sur ce sujet, plus je me disais, je me prenais de passion pour le truc et je me disais, mais en fait, j'ai envie de tout savoir sur mon design, ça m'intéresse trop et tout. Et donc, en septembre, quand Jess, la personne dont j'avais, qui avait fait l'e-book gratuit dans lequel il y avait un peu les grandes lignes et dont je recevais les emails, a dit qu'elle relançait sa formation La Relève. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de la suivre. C'est une formation dans laquelle, en fait, tu peux apprendre tout ce que veut dire ton design. Et donc, j'ai suivi cette formation et j'ai appris des tonnes et des tonnes de trucs. d'informations sur ma charte de design humain. Et je suis trop contente, en fait, d'avoir appris ça. Je l'ai plus fait pour moi que pour le partager. Après, j'ai essayé un peu de le partager, mais je me suis rendu compte que finalement, de base, l'initiative, c'était surtout pour moi. J'avais envie de tout apprendre sur ce sujet. Et aujourd'hui, finalement, je me sers de cet outil, mais plus dans mes accompagnements, parce que je trouve qu'une fois que tu connais ce que dit le design humain, ça te fait un peu un filtre, c'est difficile de penser autrement. Et surtout, ça m'offre un peu une matrice pour expliquer à quelqu'un qui a un blocage, dire bah, en fait, ça vient peut-être de ce... Là, tu es désaligné par rapport à ton design et on peut explorer ça. Et là, dans le dernier accompagnement que j'ai fait, c'est ça, en fait, qui a tout fait basculer. On a trouvé un point de son design. Enfin, je m'en suis rendu compte par rapport à des trucs qu'elle me disait. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas ça? J'ai regardé et c'était ça. Et en fait, c'était la clé un peu à tout son déblocage. Ça a vraiment tout débloqué derrière. C'était impressionnant. Et donc voilà, donc tu vois, je m'en sers comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est moi, en fait, ces trois fois où j'ai eu ce fort enthousiasme pour des sujets, où j'ai creusé et où j'ai eu envie d'en découvrir plus, je considère que c'est vraiment moi. Je me suis sentie vraiment moi et alignée quand j'ai suivi cette petite passion. Et mon seul regret, entre guillemets, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. J'aimerais en fait que mon activité entrepreneuriale soit quasiment exclusivement faite de ce type d'enthousiasme et de passion à suivre. Et je pense que la raison principale pour laquelle c'est pas le cas, c'est que j'ai encore trop de mental dans ma façon de fonctionner et que je me dis ce sujet, il est intéressant, mais je me le dis avec ma tête et je me dis que je pourrais creuser. Et finalement, à chaque fois que je fonctionne comme ça, j'ai un peu la vague redescend derrière. Alors que quand je suis quelque chose qui vient des tripes, la vague, elle redescend beaucoup plus tard. Elle redescend vraiment, beaucoup plus tard. Là, tu vois, je considère que, bon, elle est redescendue un peu en termes de design humain, dans le sens où maintenant que j'ai tout appris, je suis un peu apaisée par rapport à ça et je suis contente de le savoir, mais c'est pas redescendu dans le sens où c'est un outil que j'utilise toujours plusieurs mois après, quasiment un an après. Et les nouveaux modes de travail, ça a duré quand même... un an, enfin, j'ai commencé en 2017 à faire les interviews, j'ai quand même fait tenir ça jusqu'à été 2019, donc ça a duré. Je sais que ça, c'est quelque chose qui fait que je kiffe mon activité, ces moments-là, je les kiffe, et je sais que j'ai tendance à un peu trop soit chercher à diriger avec mon mental, soit pas assez m'autoriser à laisser du temps et de l'espace pour que je puisse retrouver ces passions. Peut-être que je travaille trop dans le sens où je me dis, bon, il faut que j'avance, il faut que je trouve un truc, au lieu de juste me laisser être en semi-vacances et attendre de voir un peu les nouveaux sujets qui me passionnent, qui viennent. Donc ça, je sais que c'est un point d'amélioration pour moi, mais en tout cas, ça n'empêche que les trois fois où c'est arrivé, je suis contente que ce soit arrivé. Et c'est pour moi un modèle et un exemple de ce dont je veux davantage dans mon activité professionnelle. Voilà pour ce sujet. Si tu veux réagir aux épisodes, tu peux écrire un commentaire sous les articles éponymes sur le blog lesnouveautravailleurs.fr. Tu peux aussi m'écrire un email isis@lesnouveautravailleurs.fr ou sur Instagram en privé @lesnouveautravailleurs. Je te retrouve dans un prochain épisode, j'ai encore quelques trucs à te partager.